Il ne se doutait pas qu'une toute jeune fille de 17 ans, accompagnée de sa mère et de sa sœur, écoutait passionnément le grand séducteur d'âme qui parlait de l'amour de Dieu. Il n'était pas ce qu'on appelle beau, et se trouvait de 12 ans plus âgé qu'elle, mais cela n'avait pas d'importance. Car aussi belle qu'une fille peut l'être, elle recevait chacune de ses paroles avec une indescriptible émotion, parce qu'il l'arrachait à elle-même. Avec lui, elle tombait amoureuse de l'amour. Et comment séparer de l'amour l'amour du messager de l'amour? Se confondait-il? Nous n'avons reçu qu'un seul cœur pour aimer Dieu et ses créatures. On lui eût dit qu'elle était amoureuse de François, elle eût été horrifiée et n'eût pas compris. Mais rentrée chez elle, la voix véhémente et douce la suivait, prêchant la pénitence, le mépris des richesses, la mortification de la chair. Pas plus que lui, elle ne pouvait se défendre d'aimer. C'était leur nature, à l'un comme à l'autre. Mais pour la première fois, elle venait de l'entendre exalter l'amour, et il lui révélait que leur passion était la même, le désir infini de s'unir à Dieu. Pendant toute son enfance, elle avait entendu parler de lui. Avant, comme après la guerre et l'exil de sa famille à Pérouse. Et nul doute qu'elle ne l'ait au moins aperçu au cours de ses promenades, la ville entière étant au courant des folies de ce garçon, roi de la jeunesse et du tapage. Que pensait-on du personnage chez elle, dans la très noble famille des Offreduccio? Peut-être s'en amusait-on à mots couverts, sans approuver cette façon qu'il avait de jeter l'argent dans les fêtes, l'argent de son drapier de père. Malgré tout, on ne se montrait pas trop sévère pour le mauvais sujet qui chantait à toute heure du jour et de la nuit. De la nuit, surtout. Sa gaieté portait presque tout le monde à l'indulgence. La fillette écoutait. Elle avait 12 ans quand éclata la nouvelle incroyable. Le roi de la jeunesse s'était converti, se réfugiant tout nu sous la cape de l'évêque après avoir renié son père. Sans doute Claire n'avait-elle pas assisté à la scène. Elle ne se mêlait pas à la foule, mais ce qu'on raconta de l'événement dut la frapper. Le jeune homme quittait d'un seul coup le monde, toutes ses vanités et toutes ses richesses pour suivre le Christ. Claire aussi aimait le Christ, mais quitter le monde. On parlait déjà du mariage qu'elle ferait un jour. Elle était très pieuse, la jeune Claire. C'est même bien peu dire. Elle était déjà sainte. Les témoignages surabondent. Dès l'enfance, elle menait une vie quasi angélique. Un de ses traits les plus caractéristiques était son désir de n'être vue de personne. Sous les vêtements d'une extrême élégance dont on l'habillait, elle portait sous sa peau un autre vêtement de laine rude et grossière, en tout point semblable à un cilice. Elle trouvait le moyen de mettre en réserve pour les faire passer aux pauvres les mets délicieux qu'on servait à la table de ses parents. Il fallait observer de très près pour découvrir qu'elle donnait des heures à la prière et qu'à sa façon, elle vivait déjà comme une religieuse. François n'eût pu rêver une auditrice plus fervente ni plus complètement abandonnée à Dieu. La connaissait-il en 1210, une jeune fille si secrète, si résolue à ne jamais se montrer? Cela paraît douteux. Cependant, il avait dû entendre parler d'elle par son cousin Germain, ce même Ruffin qu'il avait envoyé prêcher à demi nu. L'inévitable se produisit en peu de temps. Nous savons parfaitement ce que pensait François des femmes après sa conversion. Dire qu'il évitait de les voir est faible. Il interdisait à ses frères de leur adresser la parole. Et quant à lui, il les séparait tout bonnement de son univers, ce qui, par parenthèse, nous permet de deviner à quel point elles avaient dû le fasciner. Simplement, il redoutait leur présence. Or, la jeune Claire, sous la menace grandissante d'un mariage dont la seule idée lui faisait horreur, voulait de toutes ses forces demander conseil et ouvrir son cœur à ce frère qui parlait si admirablement du Christ. Avec l'obstination des élus, elle décida qu'elle irait vers lui coûte que coûte. Et secrètement. Pas toute seule, toutefois, mais accompagnée d'une parente de tout repos, Madonna Buona di Gualfuccio. De son côté, François,